VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de Washington DC pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui. Bienvenue à cette édition du mardi 27 mars 2018. À la une ce soir au Tchad, le forum sur la réforme des institutions a pris fin aujourd'hui. La rencontre avait pour mission de réviser l'organisation politique et administrative du pays. Les autorités nigérianes dévoilent l'existence de pourparlers de paix avec une aile dissidente du groupe Boko Haram. Moscou dénonce des pressions colossales de Washington pour l'expulsion de diplomates russes d'une vingtaine de pays. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Tchad, le forum sur la réforme des institutions a pris fin aujourd'hui. La rencontre avait pour mission de réviser l'organisation politique et administrative du pays. De N'Djamena, le point avec André Kodmadjingar.
Oui, ce forum qui a permis donc aux participants, plus de 1000 participants selon les organisateurs, de plancher sur la réforme de l'État, le réaménagement des grandes institutions de la République, la réforme judiciaire. Et donc, à l'issue de ce forum, de grandes décisions ont été prises, telles que le maintien donc du régime unitaire fortement décentralisé avec la limitation du mandat du président de la République à 6 ans renouvelables ainsi qu'aux élus locaux. Pendant ce forum, donc, plusieurs décisions ont été prises. La suspension, par exemple, des grandes institutions telles que la médiature nationale, la primature et le contrôle et de surveillance des revenus pétroliers. Les institutions telles que la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel et la Haute Cour de justice deviennent donc des chambres de la Cour suprême. Ce forum donc réduit la région de 23 donc réduit à 17 provinces.
Pendant la libération des écolières de Dapchi, les autorités nigérianes ont dévoilé l'existence de pourparlers de paix avec une aide dissidente du groupe Boko Haram. Nathalie Barge.
Les négociations tenues secrètes ont commencé en juillet 2017 après une embuscade contre une mission pétrolière qui avait fait 69 morts près du lac Tchad. Les pourparlers concernent l'éventualité d'une cessation permanente des hostilités et la possibilité d'accorder l'amnistie aux repentis, selon le gouvernement. Lors de la libération des écolières, un convoi arborant le drapeau noir des djihadistes était entré à Dapchi sans aucune résistance, alors qu'un cessez-le-feu d'une semaine avait été décrété le 19 mars. Le gouvernement a négocié la libération des filles de Dapchi avec le groupe d'Abou Mossab al-Barnaoui, qui dirige une faction rivale de celle d'Abou Bakar Cheikho, opposée à toute négociation. Ce n'est pas la première fois que des pourparlers sont engagés. En 2014, les attaques avaient repris de plus belle, malgré un accord annoncé avec les insurgés.
Le comité international de la Croix-Rouge annonce avoir secouru près de 5000 déplacés fuyant le nord du Burkina Faso. Plus de 800 familles ont fui les violences armées qui se multiplient dans la province du Soum, proche du Mali, c'est ce qu'indique le CICR. Le nord du Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 3 ans qui ont fait 133 morts et 80 attaques selon un bilan officiel. Au Niger, plusieurs responsables de la société civile ont été inculpés, arrêtés dimanche après une manifestation interdite. Ils sont maintenant écroués. On fait le point avec Idriss Fall.
4 figures de la contestation sont incarcérées dans différentes prisons. Nuhu Arzika à Saï, au sud de la capitale, Moussa Tchangari à Wallam, Maître Lirwana Abdourahmane à Daïkaina et Ali Idrissa est gardé à Filengue, au nord-est de Niamey. Amnesty International a demandé hier la libération des 23 personnes détenues suite à la manifestation de dimanche qui avait dégénéré en violence avec la police. D'après Amnesty, la vague d'arrestations et la réponse brutale des forces de sécurité bafouent les droits des manifestants à la liberté de réunion pacifique, mais risquent d'embraser une situation déjà tendue. La manifestation de dimanche a été interdite pour des raisons de sécurité, selon le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, qui ajoute que ses organisateurs ont passé outre et ont incité et provoqué des troubles à l'ordre public. Dimanche soir, la police a ordonné la fermeture jusqu'à nouvel ordre du groupe privé de radio-télévision Labari appartenant à Ali Idrissa. C'était peu après des heurts entre les forces de l'ordre et ceux qui dénoncent la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale.
Et nous reviendrons sur la fermeture du groupe privé de radio-télévision Labari à Niamey dans notre partie magazine. Le mandat de la MINUSCO, mission de l'ONU en République démocratique du Congo, est renouvelé. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution qui charge les casques bleus de protéger les civils et d'aider la préparation des élections prévues en décembre. Le texte présenté par la France prolonge le mandat de la MINUSCO, la plus importante force de l'ONU au monde, jusqu'en mars 2019. La résolution souligne la nécessité de faire tout ce qui est possible afin d'assurer que les élections sont organisées avec les conditions requises de transparence, de crédibilité, d'ouverture et de sécurité. Le Conseil appelle le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à préparer des plans incluant toutes les options en cas de besoin, dont l'envoi de renforts venus d'autres missions de l'ONU. En Tanzanie, le chef de l'opposition a été inculpé d'appel à la haine et incitation à la rébellion, notamment après son arrestation dans la matinée avec 5 autres membres du parti. Freeman Mbowe, le président du principal parti d'opposition, le Chadema, est inculpé pour son rôle dans une manifestation organisée le 16 février. L'ambassadeur des Comores en France a été convoqué au ministère des Affaires étrangères après le refus de son pays d'accueillir des Comores expulsés de Mayotte. La France demande la levée immédiate de ces mesures qui empêchent le retour des ressortissants comoriens entrés illégalement sur cette île française. Concernant la migration vers l'Europe, cette fois-ci, un juge italien a confirmé le placement sous séquestre du navire d'une ONG espagnole soupçonnée d'aide à l'immigration clandestine. Les secouristes de Proactivia Open Arms avaient refusé de confier aux gardes-côtes libyens des migrants et insisté pour les conduire en Italie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, deux policiers impliqués dans l'homicide d'un vendeur ambulant noir en 2016 ne seront pas poursuivis. Le procureur général de l'État de Louisiane a prononcé un non-lieu. Alton Sterling, 37 ans, avait été tué de plusieurs balles alors qu'il était maintenu au sol par les policiers à bâton rouge. Le rapport du procureur insiste sur le fait que M. Sterling a résisté à son interpellation et qu'il avait une arme glissée dans sa poche. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, accuse les États-Unis d'avoir fait pression sur certains pays pour obtenir l'expulsion des diplomates russes après l'empoisonnement d'un ex-espion russe en Grande-Bretagne. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré que ces expulsions en cascade de diplomates russes est le résultat des pressions colossales d'un chantage qui, d'après lui, constitue l'arme principale de Washington. « Nous allons riposter, n'en doutez pas, parce que personne ne peut souhaiter une telle muflerie », a ajouté M. Lavrov. De son côté, la presse russe estime que ces expulsions coordonnées des diplomates russes plongent les relations entre Moscou et les Occidentaux dans une nouvelle période de guerre froide. Il s'agit d'une réaction russophobe, a titré le quotidien Izvestia. 23 pays, dont 16 membres de l'Union européenne, ont décidé d'expulser au moins 116 diplomates russes. C'est suite à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique le 4 mars, perpétré selon Londres par Moscou. Washington a expulsé 60 diplomates russes, les considérant comme des agents de renseignement et a fermé le consulat de Russie à Seattle.
En Syrie, le régime de Bachar al-Assad et son allié russe brandissent la menace d'une offensive sur Douma, dernière poche rebelle dans la Ghouta orientale, pour faire pression pour obliger les insurgés à évacuer la ville. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme que des négociations entre Jaïch al-Islam, qui ne veut pas quitter la Ghouta, et la Russie portaient sur un possible maintien de ce groupe rebelle à Douma, à la périphérie de Damas, en échange de son désarmement et du déploiement de la police militaire russe. La Russie réclame désormais le départ de la Ghouta de Jaïch al-Islam, faisant planer la menace d'une offensive en cas de refus. Concernant la Syrie toujours, une juge française chargée par l'ONU de recueillir des preuves sur les crimes les plus graves commis en Syrie a dit examiner un volume sans précédent d'informations et explique faire face à un volume colossal de documents attestant de crimes commis dans le pays. Et selon elle, il sera impossible d'enquêter sur l'ensemble des crimes. L'armée israélienne dit avoir arrêté 3 Palestiniens entrés en Israël de la bande de Gaza avec des grenades et des couteaux. Par ailleurs, en Cisjordanie occupée, des colons israéliens ont pris possession de 2 maisons vides dont des Palestiniens revendiquent la propriété à Hébron. L'Ouzbékistan a accueilli ce mardi une conférence sur l'Afghanistan impliquant les puissances régionales, les États-Unis et l'Union européenne, afin de permettre d'organiser des négociations directes entre Kaboul et les talibans et relancer le processus de paix. Aujourd'hui, des efforts communs sont nécessaires comme jamais, a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors de la conférence, en soulignant que la situation en Afghanistan continue de se dégrader. La Commission européenne et une commission parlementaire britannique somment le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, de s'expliquer en personne sur la fuite de données. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur La Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
Le Maroc offre l'environnement le plus adéquat pour des investissements en Afrique. Dans son classement des 10 économies africaines les plus attractives pour les investissements, le groupe Quantum Global cite respectivement l'Égypte, l'Algérie, le Botswana, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, la Zambie, le Kenya et le Sénégal. La RCA reste l'économie la moins attirante. Quantum Global note la chute considérable en 2016 des investissements directs étrangers en Afrique. Les États-Unis restent la première source de ces investissements devant le Royaume-Uni, la France, la Chine et l'Afrique du Sud. Le Rwanda envisage une croissance de plus de 7% en 2018 et de près de 8% en 2019. Ces prévisions se fondent sur les performances attendues dans les secteurs des services. Entre 2016 et 2017, l'agriculture et l'augmentation de la production de plusieurs minéraux, notamment le coltan et la cassitérite, ont boosté la croissance. Le FMI a accordé à la Tunisie un prêt de plus de 257 millions de dollars pour soutenir les réformes économiques. Les priorités incluent la stabilisation de la dette publique sous les 73% du produit intérieur brut d'ici 2020. Le FMI estime que le système d'échange doit être plus flexible pour soutenir les exportations. Depuis 2016, le FMI a déjà déboursé à Tunis 662 millions de dollars.
Sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Match amico sur la planète football. Lourde chute pour le Portugal.
Eh oui, le Portugal qui a subi une très sévère déconvenue hier soir face aux Pays-Bas en match amical. Le champion d'Europe en titre qui s'est incliné sur le score de 3-0 face aux Néerlandais. On rappelle que les Pays-Bas ne sont pas qualifiés pour le Mondial en Russie. Ils avaient terminé 3e de leur groupe de qualification derrière la France et la Suède.
À suivre ce mardi à Dar es Salaam, la Tanzanie contre la RDC. Et nouvelle controverse pour les Léopards.
Eh bien les Léopards qui se sont inclinés 2-0 face aux Taifa Stars de la Tanzanie. Mbwana Ali Samanta et Yaya Shiza Ramdani sont les bourreaux des Léopards. Belle victoire également de la Centrafrique, 3-2 face à des Kenyans réduits à 10. La Russie qui est battue à la mi-temps 1-0 par la France. À suivre Angleterre-Italie, Bosnie-Sénégal, Côte d'Ivoire-Moldavie, Tunisie, Costa Rica, et puis à Berlin, la revanche de la demi-finale catastrophique du Brésil. Ils avaient perdu 7-1 face à la Mannschaft. Cette fois-ci, les Brésiliens voudront prendre leur revanche lors de ce match très important face aux champions du monde allemand 2014. Enfin, les autres rencontres, Nigeria-Serbie, le Maroc face à l'Ouzbékistan avec un turnover important, selon Hervé Renard, le sélectionneur. Enfin, À Madrid, l'Argentine de Lionel Messi face à l'Espagne.
Et enfin, NBA, championnat de basket nord-américain.
Les Lakers de Los Angeles qui sont officiellement éliminés de la course aux playoffs après leur défaite à Détroit, 106 à 112. Victoire de Philadelphie face à Denver, 123 à 104. Et puis Boston, privé de son meneur Kyrie Irving, encore absent au moins 3 semaines, a aligné une 4e victoire de suite, 102 à 94 à Phoenix.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériac en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Congo-Brazzaville. Les organisations des droits de l'homme continuent de publier des rapports sur la pratique de la torture dans les centres de détention au Congo. La police affirme qu'elle réalise d'importants efforts pour atténuer ce phénomène et que la torture n'est pas systématique dans les prisons congolaises. Un reportage de Nguelan Goussou à Brazzaville.
La pratique de la torture reste encore une bien malheureuse réalité dans les lieux de détention au Congo. Récemment, c'est un responsable du syndicat d'étudiants Nelson Apanga qui a été torturé et peine aujourd'hui à se remettre. À la cité, on compte de nombreuses victimes. Le cas de ce jeune d'à peine 14 ans qui parle de ses tortionnaires.
Ils m'ont torturé, ils m'ont tapé comme un voleur avec des bâtons et tout. Et puis une maman est venue, elle m'a fait avaler un pot de piment. Quand un monsieur est venu, il a pris une bouteille, un chassé et une boîte d'allumettes. Il l'a allumé et il a commencé à faire sentir ça sur tout mon corps. Et pour protéger mes parties intimes, j'ai dû baisser la tête et j'ai eu beaucoup de brûlures partout sur le corps.
Une autre victime, âgée d'environ 50 ans, raconte comment ses tortionnaires l'ont torturé dans un commissariat de Brazzaville.
Ils ont demandé au chef de poste de me sortir. Ils m'ont emmené derrière le commissariat de Diata. Ils m'ont menotté jusqu'au fond. Ils ont forcé le bar de fer sous mes genoux. Et par la suite, maintenant, ils m'ont soulevé et suspendu sous la barre de fer. Et l'autre côté du bar de fer était soutenu par la fenêtre d'une maison inachevée et l'autre par la table et mes yeux en direction du soleil. Et la douleur était tellement intense, je lui ai dit, au lieu de continuer à me faire souffrir, prends ton arme et tire sur moi.
Mais la police estime que ces pratiques sont systématiquement sanctionnées. Plusieurs policiers ont été radiés des rangs pour ces motifs, soutiennent les officiers de police, comme le lieutenant-colonel Bayizar de l'ordre public à Brazzaville.
Si certaines pratiques étaient tolérées, ce ne sera pas le cas. Aujourd'hui, la DGP, dont j'appartiens, a mis en place des programmes de formation qui vont concourir à l'élévation du niveau professionnel de police. Les antivaleurs ne devaient pas avoir leur place dans notre corporation.
Le commandant de police Pierre-Rodrigue Mavungu du commissariat de Dieu ajoute:
on n'a pas besoin d'appliquer la force sur une personne qui défère tranquillement à une invitation de la police. Souvent nous sommes critiqués du fait que lorsqu'on interpelle, directement on met sous la banquette, dans la BJ, on commence à piétiner. Et c'est aussi cette résistance. Vous voyez, le service que nous faisons est noble, mais aussi beaucoup ingrat.
Les ONG locales continuent de se plaindre du fait que ces dossiers n'aboutissent pas à la justice. Monica Ngalula est la responsable juridique de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Les cas sont cités, vous avez des certificats médicaux que vous arrivez à joindre, vous avez des photos avec des preuves, et deux fois il arrive même qu'avant même d'aller au tribunal, vous vous rapprochiez de ces commissariats qui torturent. Ils reconnaissent que le monsieur est passé au commissariat, mais quand on arrive au niveau de la justice, le dossier n'avance pas, ça reste coincé dans les cabinets d'instruction.
Ces associations estiment que la torture a encore de beaux jours devant elle. Nguelan Goussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Mali, le gouvernement et l'opposition estiment que les élections présidentielles prévues le 29 juillet auront bel et bien lieu. Pourtant, l'État peine à asseoir son contrôle sur une grande partie du territoire national, dont Kidal. Modibo Dembélé a recueilli l'avis d'Abdramane Diarra, président du Mouvement national des jeunes de l'URD, le principal parti d'opposition au Mali.
Le mandat présidentiel est prévu pour 5 ans et nous sommes à la fin du mandat du président qui a été élu en 2013. Alors, ce président lui-même, son chef du gouvernement, son premier ministre et l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des élections ont donné à plusieurs reprises la certitude et l'assurance que toutes les conditions seront réunies pour que les élections se tiennent le 29 juillet 2018.
Avez-vous obtenu du gouvernement toutes les garanties de transparence?
Les garanties de transparence, il est difficile de les obtenir à 100%, mais nous avons quand même, à travers une requête du chef de file de l'opposition, obtenu du gouvernement la mise en place d'un comité d'experts composé des représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition politique, de la société civile et de l'administration. Ce comité a travaillé sur des points de modification de la loi électorale, parmi lesquels nous pouvons nous glorifier de l'acceptation par tous de la désignation de deux assesseurs supplémentaires, l'un par l'opposition, l'autre par la majorité. Ces assesseurs, qui s'ajouteront aux deux assesseurs qui existaient déjà dans les bureaux de vote, pourront contrôler au nom des partis et des listes qui représentent l'entrée des électeurs et l'ensemble des opérations de vote d'un électeur donné. Donc, cette commission a obtenu également d'autres améliorations dans le cadre de la centralisation des résultats électoraux et du choix du document de vote, c'est-à-dire la carte électorale. Étant donné que la carte NINA pose trop de problèmes dans sa confection et dans sa distribution, il y aura un audit du fichier électoral au mois d'avril prochain. À la fin de cet audit, nous allons probablement nous réunir pour décider de la forme des informations à apposer sur la nouvelle carte électorale qui sera confectionnée sur la base du nouveau fichier électoral et distribué d'ici les élections.
Qu'est-ce que le candidat soumis à la CC apportera de nouveau en 2018 qu'il n'avait pas fait en 2013?
En 2018, il proposera mieux. En ce sens qu'au-delà de toute la vision et tout ce qu'il a présenté aux Maliens, il a eu à animer de façon élégante l'opposition qui a permis à bon nombre de nos compatriotes, à l'opinion nationale et internationale, qu'il est un homme d'État, un homme doté de vision, entouré d'hommes et de femmes patriotes, engagés, compétents pour relever les défis auxquels le peuple malien est confronté actuellement, notamment les défis liés à la sécurité, à la relance de l'économie, à l'amélioration des conditions de travail, de vie, au chômage, à la diplomatie.
Voilà, c'était Abdramane Diarra, président du Mouvement National des Jeunes de l'URD, principal parti d'opposition au Mali.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
La justice nigérienne a inculpé et placé dans différentes prisons du pays plusieurs responsables de la société civile. Mesure prise suite à une manifestation interdite et qui avait dégénéré dimanche en violence avec la police. Par ailleurs, les programmes de la chaîne de télévision privée La Bari, suspendue par la police en marge de cette manifestation, n'ont toujours pas repris. On fait le point avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Ali Idrissa, à la prison civile de Filengué, à 130 km de Niamey, Moussa Tiangari, à celle de Wallam, située à 150 km de la capitale, Nuhu Mamadou Arzika, à la maison d'arrêt de Saï, à 50 km de Niamey, et Maître Lirwana Abdramane au camp pénal de Daïkena, situé, lui, à 120 km de la capitale. C'est ce qu'a décidé ce matin le juge d'instruction après les 24 heures de garde à vue de ces acteurs de la société civile organisateurs de la manifestation du dimanche dernier pour protester contre la loi des finances 2018. Une décision qui ne surprend pas la défense. Maître Samna Daouda.
Le juge d'instruction, avant même d'entendre les dites personnes, avait déjà ses mandats écrits et déposés. Et lorsque les avocats que nous sommes arrivés, il a dit que ce n'est pas un marché. Ce juge d'instruction, il est aux ordres. Nous avons le devoir en tant qu'avocat de faire en sorte que la justice passe.
Pour les quatre responsables de la société civile et la vingtaine d'autres personnes interpellées dimanche, deux chefs d'accusation ont été retenus, organisation et participation à une manifestation interdite et complicité de dégradation des biens publics et privés. En lien toujours avec cette manifestation du dimanche dernier, les programmes du groupe de presse privé La Bari appartenant à Ali Idrissa sont toujours suspendus et les locaux inaccessibles au personnel depuis dimanche sur instruction de la police. L'organe de régulation du secteur de la presse, le Conseil supérieur de la communication, seule habilité selon la loi à prendre une telle décision saisie par les responsables de la télévision, n'a pas encore réagi. Ima Garba, administrateur financier.
Et l'organe de régulation a été saisi aussitôt les policiers étaient sur place et le président de l'institution nous a tout simplement rétorqué que c'est pas normal Et depuis lors, il s'est confiné dans un silence total. Et nous regrettons amèrement cet état de fait, ce comportement de l'organe de régulation qui doit nous protéger.
Cette situation laisse du coup perplexe les agents qui travaillent dans cette télévision.
C'est pénible, vraiment. On vient depuis le matin jusqu'au soir, il n'y a pas d'activité, on retourne bredouille les mains à la maison. Et si ça perdure, vraiment, je ne sais que dire encore, vraiment.
La Bari est la première chaîne à donner les informations chaque soir, la grande édition télévisée du soir, 19h45. Et voilà, d'un coup, on dit que ah, vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas le droit de jouir à cette liberté. Vous voyez ce que ça fait?
Ce mercredi, un juge de référé saisi par l'avocat de la chaîne de télévision La Bari doit se prononcer sur cette fermeture. Avec une ligne éditoriale qui prône l'objectivité et la diversité des opinions, la télévision La Bari est mal vue dans les rouages du régime en place. En 2013 déjà, un membre du gouvernement l'a qualifié de télévision ennemie. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition, la mise en onde de Sims Loumami, à la présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook, partagez vos points de vue, photos, posez des questions. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Vers fin décembre de l'année dernière, l'administration Trump a présenté sa stratégie de sécurité nationale. L'une des actions prioritaires qu'elle prévoit est le progrès et la protection de la liberté religieuse et des minorités religieuses à travers le monde. Le vice-président Pence, dans ses remarques au sommet mondial pour la défense des chrétiens persécutés, a dit « Protéger et promouvoir la liberté religieuse est une priorité politique étrangère de l'administration Trump ». L'ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse internationale Samuel Brownback a également souligné que dans son discours à l'Institut de la paix des États-Unis, que la liberté religieuse est le plus important sujet politique étrangère aujourd'hui. Et s'il y a un trait commun entre les régimes répressifs du monde, c'est l'oppression des minorités religieuses. La persécution, la répression et la discrimination sont les lots quotidiens des membres de ces minorités dans beaucoup de pays du monde. Croyants et non-croyants sont les cibles des violences. Leurs droits humains sont limités ou parfois complètement réduits. La réponse des États-Unis à de telles violations et abus de la liberté religieuse s'appuie sur la loi sur la liberté religieuse datant de 20 ans. Cette mesure a introduit la promotion et la protection de la liberté religieuse comme priorité des politiques étrangères des États-Unis. Au cours des années écoulées, le département d'État a fourni une orientation stratégique à ses ambassades et consulats sur la manière de promouvoir de manière consistante les droits des minorités religieuses, de même que leur traitement équitable au sein de la société. Reconnaissant l'importance de préserver l'héritage culturel, le département d'État a développé un partenariat avec l'Institut Smithsonian pour former les leaders des églises et groupes religieux minoritaires sur la manière de protéger les lieux anciens d'importance culturelle. Le département d'État a aussi œuvré avec l'Organisation des États américains pour amener les pays de notre hémisphère à se joindre à ces efforts visant à combattre la persécution dans d'autres régions. Toutefois, un nombre croissant d'acteurs continue d'attaquer les minorités religieuses, sapant ainsi la diversité religieuse. En réponse, nous devons demeurer engagés dans la défense de cette liberté fondamentale. Nous pouvons obtenir des résultats durables en créant et protégeant des environnements dans lesquels tout le monde peut jouir de la liberté des religions ou de croyances.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.